Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit et de notre société. Le jour de la première Pentecôte, l'Esprit-Saint descendit sur les apôtres réunis dans la salle du Cénacle autour de la Vierge Marie. Depuis, tous les chrétiens le reçoivent le jour de leur baptême. Et le jour de leur confirmation, les catholiques ont la confirmation de ce don extraordinaire, la présence en eux de la troisième personne de la Très-Sainte Trinité. Pourtant, cette présence du Saint-Esprit n'est pas compatible avec le péché qui chasse Dieu de la vie des hommes. Et le spectacle de notre pauvre société contemporaine qui a chassé Dieu nous oblige à méditer non seulement sur le Saint-Esprit, mais également sur le péché originel. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Très-Sainte Trinité, amour du Père et du Fils, ou encore le lien de l'amour entre le Père et le Fils est très peu connu. Pourtant, le bonheur des hommes, c'est d'être avec Dieu, de vivre avec Dieu, de le découvrir sans cesse, de l'aimer, de le chanter, de le louer, de le prier. Vivre d'amour, c'est écouter le Saint-Esprit, lui l'Esprit d'amour du Père et du Fils. Curieusement, les paroles de Jésus concernant le Saint-Esprit sont parfois difficiles à comprendre. Ainsi, Jésus dit à ses disciples peu avant sa passion : « Si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit. » Qu'est-ce que cela veut dire? Certes, Jésus donnera le Saint-Esprit à ses apôtres lorsque, après la résurrection, il institua le sacrement de la réconciliation, alors que Thomas, qui n'avait pas encore retrouvé sa foi, était absent. Jésus a soufflé sur ses apôtres en leur disant « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Puis Jésus s'éloigna. Nous n'en savons pas plus, sinon que Jésus rencontra de nouveau ses apôtres 8 jours plus tard, Thomas étant présent. Après l'ascension, vinrent la Pentecôte et le Saint-Esprit sur Marie et les apôtres. Était-ce le même esprit que celui qui fut à l'origine du sacrement de réconciliation? C'est certain. Mais à la Pentecôte, l'Esprit-Saint vint dans toute sa plénitude, et avec tous ses dons, non seulement la sagesse, mais aussi le don des langues, puisque le livre des Actes des Apôtres nous assure que tous les Juifs de la diaspora, qui étaient présents à Jérusalem à cette époque de grande fête de la Pâque, tous les Juifs les comprirent, chacun dans sa langue. Et puis les apôtres multiplièrent aussi les miracles. Certes, nous comprenons un peu mieux, mais soudain nous voici revenus à Gethsémani, comme plongés dans l'agonie de Jésus, écrasé par la souffrance, tellement écrasé qu'il appela le Père pour que ce calice passât loin de lui. Et le Père envoya son ange qui fortifia Jésus. Alors que s'était-il passé? Jésus avait-il été momentanément privé de son esprit, voire de sa divinité? Jésus, homme à Gethsémani, fut-il limité comme nous à son humanité? Que de questions! Contemplons Jésus dans sa vie publique. C'est un homme plein de sagesse et très puissant compte tenu de tous ses miracles. Et cela nous prouve qu'il était Dieu, que son être sur la terre était à la fois Dieu et homme. Mais son corps était vraiment matière, et Jésus se présentait comme un homme banal, donc non glorieux. Pourtant, sa divinité était bien en lui. Nous nous perdons. Ce que nous savons bien, par contre, c'est que Jésus faisait toujours la volonté du Père, qu'il était toujours parole du Père qui s'exprimait par lui, Jésus. Et Jésus n'exprimait la parole du Père qu'en fonction des capacités de ceux à qui il parlait. Car les hommes ne peuvent recevoir que ce qu'ils peuvent porter. D'où les limites apparentes de Jésus, limites apparentes seulement afin d'assurer le respect des impuissances et des faiblesses humaines. À mesure que nous avançons dans nos réflexions, nous comprenons combien nous sommes limités, et que jamais nous ne pourrons comprendre la vérité de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est le guide de nos intelligences. Il est la sagesse de Dieu qui nous éclaire et oriente nos cœurs et nos petits esprits. Mais n'oublions jamais que nous ne pouvons pas écouter l'Esprit-Saint si nous sommes coupés de Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à nos sociétés modernes qui se sont volontairement séparées de Dieu. Nos sociétés, coupées de Dieu, vivent dans un orgueil monstrueux, dans un mensonge permanent et dans un égoïsme bien déguisé. Est-ce que ce sont les hommes d'aujourd'hui qui sont en train de commettre le péché originel? Je vais m'expliquer. Jésus peut, si nous le voulons, devenir notre unique amour. Mais Dieu nous a placés dans un monde assez surprenant. Alors que les découvertes scientifiques, de plus en plus spectaculaires, nous éclairent, ou devraient nous éclairer sur l'existence de Dieu, alors que ces découvertes devraient faire croître notre foi, nous assistons à une dégradation consternante des sociétés humaines. Dieu se fait évident et les hommes chassent Dieu. Dieu nous appelle et non seulement nous le chassons, mais nous refusons son amour. C'est comme si, à force de grignoter l'arbre de la connaissance, notre orgueil était devenu tel que nous ne comprenons plus les énormes mensonges de Lucifer. C'est même comme si nous vivions ce que la jeunesse présente comme le moment du péché originel. Car il semble bien que c'est nous, les hommes du XXIe siècle, qui commettons ce péché originel, ayant chassé l'homme du paradis et condamné au malheur. Je dois préciser, les découvertes scientifiques qui assurent notre confort, tout en dévoilant l'immensité infinie des cosmos, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, montre aussi, d'une manière évidente et dramatique, l'extrême petitesse des hommes qui, s'ils sont loyaux, découvrent Dieu que pourtant ils refusaient, se croyant les maîtres du monde. Et pourtant, que voyons-nous dans notre société? L'athéisme, ou refus de Dieu, a conduit à une immoralité hyper dangereuse et suicidaire. En effet, ce refus de Dieu et de sa loi d'amour a conduit l'humanité à légaliser tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu avait exigé des hommes afin qu'ils puissent être heureux. Ainsi, quand Dieu dit « tu ne tueras pas », les hommes multiplient les guerres et les massacres des tout petits à naître par l'avortement et l'euthanasie. Jésus déclare « heureux les cœurs purs » et tout ce qui dans la Bible était condamné comme abomination a été légalisé, comme par exemple le mariage des homosexuels. Les personnes qui ont encore un peu de bon sens ne savent plus où est la vérité. Les hommes, trompés de plus en plus par les mensonges de Satan, mangent le fruit défendu, le fruit du péché originel. Pourtant, au fond de nos cœurs, nous entendons les paroles de Dieu à la femme qui écrasera la tête du serpent. Certes, aujourd'hui, beaucoup d'hommes souffrent de l'absence de Dieu et des persécutions, mais peut-être la femme a-t-elle déjà commencé à écraser la tête de ce serpent terriblement venimeux, car un certain frémissement commence à se faire sentir. De nombreuses conversions se manifestent, de nombreuses personnes prennent conscience du drame que nous vivons et commencent à dire qu'il faudrait peut-être revenir à la morale. Des vocations nouvelles se manifestent et notre espérance renaît. Oui, le Saint-Esprit de Dieu, toujours présent dans le cœur des saints, est toujours agissant pour redonner la vie à nos sociétés mourantes.